Europe 1.
Quand les relations sont toxiques, elles provoquent des souffrances dont on peine parfois à retrouver l'origine exacte, le point de départ, ce jour où tout a changé. De façon insidieuse, certaines personnes ont pour seul but de manipuler, dominer et de finalement détruire. Jour après jour, la relation empoisonne celui qui en est victime et le manipulateur tisse sa toile. Les relations toxiques peuvent être aussi amicales, familiales, amoureuses ou encore professionnelles, mais elles sont toujours malsaines et destructrices. À quel moment devient-on otage d'une relation toxique? Comment vit-on sous emprise et comment s'en défaire? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Colette. Sa mère était une femme toxique, elle en a terriblement souffert, au point que sa mort a été une forme de libération. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus. Colette vit à Malesherbes, dans le Loiret. Colette est l'auteur d'un livre, L'enfant bonsaï, dans lequel elle raconte son histoire. Celle de sa relation avec une mère qui l'a maltraitée tout au long de sa vie, en dissimulant sa vraie nature à un entourage qui ne se doutait de rien. Colette.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Très bien.
Merci de me recevoir ici, dans votre jolie région du Loiret, c'est ça?
Ah ben oui, c'est très beau, c'est agréable.
Vous habitez ici depuis combien de temps?
13 ans, depuis 13 ans.
13 ans, donc oui. Vous connaissez bien la région.
Ah oui.
Alors, vous avez 64 ans.
Oui, tout à fait.
Vous êtes à la retraite. Oui. Vous dites que vous êtes particulièrement heureuse depuis 3 ans.
Ben oui, je l'avoue, oui. Depuis que ma mère est morte, je le dis honnêtement, c'est ça.
Depuis que votre mère est morte.
Ben oui. Mm-hmm. Alors, je sais que ça peut choquer les gens. Mais je vis, je suis moi.
Est-ce à dire que vous avez été jusqu'à souhaiter sa mort ou
jamais? Ah non, jamais, non. Bah non, parce que ma mère, je l'aimais, je veux dire. En revanche, je l'avoue, il m'arrivait, quand elle avait été trop infecte avec moi, de me dire, si seulement, juste à la fin de ma vie, je pouvais juste, qu'elle meure juste avant, juste un an avant moi, que je puisse juste savoir ce que ça fait d'être libre. Voilà, c'était... Mais le souhait de sa mort, non, bien sûr que non.
Ça a commencé dès l'enfance,
oui.
Cette relation. Et ça a duré toute votre vie.
Oui. En fait, elle a voulu m'effacer. Toute ma vie, elle a essayé de m'effacer. Elle voulait que je n'existe pas, en fait, quoi. Et à la fois, j'étais son joujou, et elle était méchante avec moi, elle aimait ça, et donc elle me gardait sous sa coupe, quand même.
Lorsqu'on lit votre livre, L'enfant bonsaï, bonsaï, c'est très très important pour vous d'avoir trouvé cette image.
Oui, franchement, quand j'ai vu les traitements qu'on leur faisait subir au bonsaï, tout d'un coup, mais ça m'est apparu que c'était ce que ma mère me faisait subir.
Alors, c'est-à-dire?
Eh ben, c'est-à-dire confinée dans un truc trop petit, sous surveillance constante, presque pas d'eau pour le maintenir petit. Et surtout pour qu'il puisse pas s'épanouir. Pour moi, ça a été évident que ma mère, j'étais son bonsaï. Et on taille les racines aussi pour que l'arbre ne grandisse pas. Ouais. Et moi, en fait, j'étais sans racines. Ma mère n'a jamais voulu me dire qui était mon père.
En 1953, Anne-Marie, la mère de Colette, est étudiante et célibataire lorsqu'elle donne naissance à sa fille unique. Seule et immature, Anne-Marie est incapable de prendre soin de ce bébé et manque même de l'empoisonner avec du lait frelaté. Âgée de 9 mois, Colette est alors confiée à une nourrice par ses grands-parents. La petite fille grandit sereinement chez cette femme jusqu'à l'âge de 6 ans.
Et donc à 6 ans pile, hélas, mon grand-père a dit à sa fille, faut absolument que tu récupères ta fille parce que les études c'est sacré, c'est le CP, il faut absolument que tu récupères ta fille. et du jour au lendemain, elle est venue m'arracher comme ça.
Donc finalement, cette mère, vous ne la connaissiez pas.
Ah non, je ne la connaissais pas.
Et comment se passent les premiers jours?
Alors, on était dans un studio, en fait. Donc, on était tout le temps l'une avec l'autre. Moi, j'étais contente parce que j'avais très peur d'être seule. Donc, j'étais contente de ne pas avoir une chambre à part. Mais ma mère, ça ne l'arrangeait pas du tout, du tout, du tout. Parce que tout ce qu'elle voulait, ce n'était pas me voir. Constamment, c'était « Ah, mais sors de là, hors de ma vue. » Il ne fallait pas qu'elle me voie, il ne fallait pas qu'elle m'entende. Elle ne voulait pas que je l'embrasse, elle ne supportait pas de me toucher. Elle ne pouvait pas me prendre par la main, ça la dégoûtait. Elle me disait « Ah, tu as les mains moites, t'es dégoûtant. » Elle faisait ça le long de sa cuisse.
Ça fait de vous quel enfant, ça?
J'étais très malheureuse. Tout était aléatoire avec ma mère. Je ne savais pas comment elle allait être lunée. Je ne savais pas comment ça allait tourner. Au détour d'une phrase, tout d'un coup, quand tout allait bien, paf, ça pouvait être l'inverse. Et puis, quelquefois, elle me dit de faire rouge. Et puis, après, quand je faisais rouge, elle me disait « Mais enfin, je t'ai dit de faire noir. » Enfin, c'était très, très lourd. Et le soir, en plus, elle me privait de manger la plupart du temps. Donc, c'est vite devenu un gros problème pour moi, la nourriture.
Elle vous privait de manger le soir?
Oui, la mais plupart du temps. Eh bien, il suffisait que j'ai une mauvaise note ou qu'il y ait un truc qui ne lui ait pas plu.
Privée de manger.
Elle n'avait juste pas envie de voir ma tête, c'est tout. Hein. C'était ça, l'idée. Hein. Alors, elle prenait n'importe quel prétexte. Quand on était en CM2, j'avais des fringues à la trousse et mes copines avaient toutes dégoûté. Et je me souviens que je les enquiquinais pour avoir une miette, quoi. Et il y en a une, un jour, elle avait des châtaignes bouillies dans sa poche. Et je lui ai demandé, tu ne veux pas m'en donner? Et puis elle était excédée, quoi. Elle m'a dit, mais Colette, tu n'en as pas marre d'être comme une mendiante? Et je crois que c'est la première fois que j'ai rougi de ma vie, en fait. Et je me suis juré que même si je devais mourir de faim, jamais je
qu'elle m'en demanderait.
Oui. Enfin, c'est comme ça.
C'est fini, hein, tout ça.
Oui. Oui, mais la bouffe, ça a toujours été un problème pour moi, quand même. Ouais.
Vous étiez très angoissée, non?
Ben oui, complètement. Et puis, j'étais très maigre et j'étais pas... Retard staturopondéral, comme disait le médecin.
C'est quoi, ça?
Retard staturopondéral, c'est ce qu'écrivait le médecin.
Retard de poids.
De poids et de taille.
Et de taille.
Ben oui, puisque j'étais vraiment une puce, quoi.
Vous ne vous développiez pas, donc?
Ben non, non, pas du tout.
Dominée et manipulée par cette femme tyrannique, Colette se souvient qu'elle aimait pourtant profondément sa mère. Malgré les reproches et les privations, Anne-Marie est pour la petite fille une femme fascinante, une professeure de collège intelligente, cultivée et respectée de tous.
Et oui, je l'aimais parce que elle était belle, elle était belle, je la trouvais belle. Elle était très brillante, très gaie. Elle était même, je dirais, pétillante et piquante. Elle était, les mecs, là, elle lui tournait autour. Hein. Elle était... Et les femmes l'admiraient. Les gens la trouvaient bien. Alors, c'est con, mais vous dites... si les gens la trouvent bien, c'est qu'elle est bien aussi. Il y a aussi... Comment dire, ma mère, c'était une déesse. Hein. On ne pouvait que l'admirer. Donc, moi, je l'admirais. Et je pense que dans mon amour, il y avait beaucoup d'admiration, plus que de l'amour... Il n'y avait pas de tendresse, puisqu'on ne pouvait pas avoir de rapport physique, charnel, de toute façon.
Pendant l'adolescence, la mère de Colette continue de malmener sa fille pendant qu'à l'extérieur, personne ne se doute de rien. Ce n'est qu'à sa majorité que la jeune fille parvient à prendre ses distances en décrochant un travail dans un hôtel en Guadeloupe.
Écoute, moi j'adore les arbres là, regarde, c'est magnifique.
C'est là qu'elle rencontre Yannick, son mari depuis maintenant plus de 40 ans. Yannick a été témoin du comportement pervers de la mère de Colette qui s'est immiscée d'emblée dans leur relation. Il a aussi très vite constaté que Colette gardait d'importantes séquelles de ses années passées sous la coupe de sa mère.
On va les voir?
Ouais, on va voir ce que c'est. Hein?
C'est difficile à croire et on ne réalise pas. On ne réalise pas du tout parce que c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Quoi. C'est complètement abstrait. Oui, je vois les effets dévastateurs, oui. Vous savez, pendant des années, la nuit, Colette faisait des cauchemars et hurlait. Et toutes les nuits, moi j'étais réveillé par des hurlements, il fallait que je la réveille, que je lui dise « Bon, c'est bon, c'est un cauchemar, c'est rien, ça va, on est là. » Je ne vais pas dire « Tout va bien », mais toutes les nuits, elle se réveillait en hurlant. Toutes les nuits.
Toutes les nuits.
Toutes les nuits.
Alors, cette belle-mère, la première fois que vous la rencontrez...
C'est en Guadeloupe. Colette et moi, on est déjà ensemble depuis quelque temps. Et puis, on a déjà décidé de faire notre vie ensemble. Donc elle est avertie. Et puis on va la chercher à l'aéroport, à Pointe-à-Pitre. Et déjà, ça commence fort, parce qu'elle arrive et elle n'embrasse pas Colette. Elle lui passe devant, mais raide, raide comme la justice. On voit qu'elle est pincée, énervée, enfin bon. Et c'est pas quelque chose qui est dû à la fatigue du voyage, quoi. Elle vient voir qui je suis, elle vient peut-être montrer son désaccord, je crois qu'elle m'aime pas. Et il est arrivé un truc assez amusant, parce qu'elle essaye en fait de me jouer un sale tour, c'est-à-dire de trouver quelqu'un d'autre que moi pour sa fille. Elle vante ses mérites, le mec est beau, le mec est bien, le mec est équilibré, il est mûr, c'est pas un petit jeune qui connaît rien à la vie, enfin bon.
Avant de connaître mon mari, j'avais un petit copain justement, il avait 20 ans de plus que moi, divorcé, deux enfants, et il buvait un petit peu. Eh bien, elle a essayé de me rabibocher avec lui pour court-circuiter Yannick. Non, mais ah, vous oui. Le croyez, un truc pareil?
Donc là, elle fait tout pour casser votre mariage?
Déjà, à l'avance, voilà. Mmh. Elle ne voulait absolument pas que je me marie, ma mère.
Mais Colette tient bon et le couple revient quelques mois plus tard en métropole pour se marier. Toujours opposée à cette union, Anne-Marie se mêle pourtant de tout et empoisonne la vie de sa fille en la contrariant à propos du moindre détail.
Déjà, comme elle n'avait pas d'amis vraiment, ni de famille, elle a invité des gens qu'elle n'avait pas vus depuis 20 ans parce qu'ils étaient médecins ou ceci ou cela pour faire bien déjà. Et elle m'a fait pleurer tout le temps. Alors déjà, je n'ai pas eu la coiffure que je voulais. Je voulais un chignon. Eh ben, elle m'a emmenée de force chez sa coiffeuse qui a fait ce qu'elle voulait, elle. J'ai été crêpée de partout alors que je détestais ça. Et puis, elle n'arrêtait pas de pleurnicher derrière, mais sans qu'il y ait d'autres personnes autour de moi. Alors moi, je devais la consoler en plus. Enfin, c'était fou. C'est moi qu'elle faisait pleurer, c'est moi qui devais la consoler. Enfin, c'était un truc...
Elle vous a gâché votre mariage?
Oui. Oh ben oui, c'est évident. Franchement... Je me suis dit, est-ce que ça se fait de divorcer tout de suite? Parce que là, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas tenir le coup.
Je ne sais pas ce
qu'elle
veut.
Ben parce que j'avais plus envie, j'avais peur. Je pense qu'elle a dû, me faire croire aussi que c'était une grossière erreur. Je ne sais pas.
Elle vous faisait tourner la tête, cette mère?
Complètement, hein. Complètement. C'était l'horreur totale, ce mariage.
C'est peut-être un des seuls jours où je me sois ouvertement engueulé avec elle, en fait. Parce que plus ça va, plus elle est agressive et désagréable avec Colette. Et à un moment, c'est plus possible. Donc je m'engueule avec elle. Et puis, évidemment, après, c'est le silence, elle me fait encore plus la gueule, si c'est possible. Et ça reste tendu comme ça pendant toute la journée. Et elle est absolument ignoble tout le temps.
Malgré cela, il s'avère impossible pour Colette de couper les ponts avec sa mère, car ces personnalités toxiques génèrent souvent chez leurs victimes une véritable dépendance. À 27 ans, Colette accouche de son premier enfant. Mais ce qui devrait être un heureux événement produit l'effet contraire. Colette a tellement peur de reproduire le comportement de sa mère qu'elle sombre dans une profonde dépression.
Je sentais bien au fond de moi que tout était par rapport à l'enfant. Et en fait, bon... Je l'avoue, j'ai tenté de me suicider. Pour moi, c'était sauver mon fils que de me suicider, parce que du coup, je le sauvais lui. Je le sauvais de ma mère. Je le sauvais de moi qui risquais de devenir comme ma mère. Donc, ça a été très dur pour moi, cette tentative de suicide, parce que personne n'a compris, sauf ma mère quelque part qui m'a dit « Je le sais bien que j'aurais dû avoir le courage, c'était à moi de le faire. C'était à moi de disparaître, mais j'ai jamais eu le courage », elle m'a dit.
Je crois que ce sont les pompiers ou les gendarmes, je ne sais plus, sont venus taper à la porte. Et puis Colette était à l'hôpital, elle l'avait fait. Elle a fait le geste, elle s'est ouvert les veines.
À partir de là, est-ce que vous essayez qu'elle mette de la distance entre elle et sa mère?
La distance, je crois qu'elle grandit petit à petit, mais en même temps, elle ne veut pas laisser tomber, quoi. Je crois que quelque part, en elle, il y a quelque chose qui refuse, en fait, le fait que sa mère soit aussi sincèrement horrible avec elle.
Colette réussit malgré tout à reprendre pied, mais vit dans la peur de sombrer à nouveau. Elle ne parvient pas à concevoir un deuxième enfant, et rien n'a vraiment évolué dans sa relation avec sa mère qu'elle continue d'aimer et d'admirer.
Donc ma mère est là. Il y a des photos assez extraordinaires de ma mère. D'abord, elle était très jolie. même sexy, là, quand vous la voyez là, par exemple. Bah, c'est moi qui arrive, là, et qui met le beans dans la famille. Pourtant, je suis mignonne.
Oh, vous êtes belle comme tout.
Ouais, je suis choupette.
Quel âge vous avez, là?
Ben là, 8 ans, là. 8. Mm-hmm. Ouais, 8 ans, là.
Vous êtes très menue, ouais. C'est où, ça?
On avait tellement détesté notre mariage que, du coup, on s'est refait des photos un an après.
C'est en suivant une psychothérapie que Colette commence à comprendre le mal dont souffre sa mère. En remontant l'histoire familiale, elle découvre que sa grand-mère est morte en donnant naissance à Anne-Marie. Elle découvre aussi que sa mère a eu une demi-sœur qu'elle a avoué avoir détestée et qui est morte très jeune d'une leucémie.
Ça, c'est donc ma grand-mère, celle qui est morte en couche.
D'accord,
la mère de ma mère.
La mère de votre mère.
Voilà. Et alors là, c'est la demi-sœur de ma mère qui est morte à 8 ans. Et qui, on le voit après, me ressemble un petit peu quand même quand on voit les photos de quand j'ai son âge.
Deux décès avec lesquels Anne-Marie a grandi, dans une famille où l'on ne parle pas, et qui serait à l'origine d'une culpabilité qu'elle a ensuite retournée contre sa propre fille.
Elle était jalouse de vous, pas à votre avis? Est-ce que vous avez senti un moment qu'elle nourrissait une sorte de jalousie?
Ah oui, ça c'est sûr que quand on disait du bien de moi, surtout quand on disait, mais c'était pas sur le physique, c'était quand on disait que j'étais rigolote, spontanée, marrante, sympa, tout ça, elle supportait pas.
Pour Colette, cette thérapie qui met en lumière tous ces événements passés est salvatrice. Elle l'aide à comprendre enfin le comportement morbide de sa mère à son égard.
Ben, disons qu'au moins, je me dis que ça n'a pas vraiment un rapport avec moi. Enfin, c'est pas parce que je suis une mauvaise fille ou parce que c'est parce que quelque part c'est elle qui a des traumatismes et que de toute façon je n'y suis pour pas grand-chose, oui. Donc déjà, c'est mieux pour moi.
En tout cas, cela vous a fait du bien toute cette période. Ça a déclenché beaucoup de choses, cette psychothérapie.
Ouais. Ça m'a permis, ça m'a décoincé complètement. 6 mois après, j'étais enceinte.
Mais il y a une question que je voudrais vous poser. À 36 ans, lorsque vous faites cette psychothérapie, vous vous rendez compte que cette mère ne change pas, qu'elle fait tout pour vous détruire et vous continuez. Qu'est-ce que vous cherchiez?
Moi, je crois que je ne vais même pas essayer d'expliquer. Je peux très bien comprendre les gens qui ne comprennent pas. Ça, parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas sain. Ça ne paraît pas sain non plus. Mais quand on court après l'amour, on court après la mort toute sa vie. Je veux dire, moi, j'ai couru après la mort de ma mère toute ma vie parce que je me disais que peut-être qu'après, elle va changer, qu'elle va devenir chouette. Je veux dire, moi, j'ai toujours espéré que ma mère allait s'arranger, qu'elle allait
changer.
Ne plus être comme ça, en fait. Moi, je suis très positive, en fait. J'ai toujours cru que je pouvais faire quelque chose pour elle.
Grâce à son mari et à ses enfants, Colette parvient à mettre petit à petit de la distance avec sa mère. Même si elle ne communique plus avec elle que par téléphone, elle continue de subir brimades et insultes. Un jour, Anne-Marie ne répond plus et Colette apprend que sa mère vient de subir un AVC. Elle appelle l'hôpital.
Là, ça a été la cerise sur le gâteau. Parce que quand j'ai eu la directrice, qui était fort aimable, m'a dit, écoutez, madame, je vous écoute, moi, je veux bien vous croire. Elle m'a dit, mais madame est célibataire et sans enfant. Je lui ai dit, mais enfin, je suis sa fille et tout. Ah, écoutez, je suis désolée, mais pour moi, vous n'existez pas.
C'est-à-dire qu'en fait, votre mère s'était déclarée.
Ah oui, elle a fait exprès pour qu'on ne sache pas qu'elle avait une fille.
D'accord, elle s'est déclarée célibataire et sans enfant.
Oui. Et alors là, moi, je l'ai pris, mais tout est revenu. Ma mère voulait ma mort, et maintenant, c'était clair, c'était sûr. Elle m'avait effacée, elle y était arrivée. Et ça, vous n'existez pas. Elle avait réussi, quoi. Je n'existais pas, vraiment.
Ouais.
Mais ça a été d'une violence, mais vous n'avez pas aidé la violence de ce truc.
Mais ça ne vous empêche pas de voler à son chevet?
En effet, moi je crois que là j'ai eu une obsession. C'était que ma mère me demande pardon, ou du moins me dise qu'elle m'aime, quoi.
Donc vous êtes allée la voir?
Oui.
Là en fait elle n'avait plus l'usage de la parole?
Non, elle ne l'avait plus du tout. Elle était complètement aphasique.
Donc comment est-ce que vous communiquez?
Alors d'une part elle pouvait bouger la tête et les yeux, et d'autre part elle avait la main libre. Et alors on avait tout très vite on a dit oui, non, enfin en se serrant la main ou pas et
D'accord.
tout. Et donc c'est comme ça qu'on s'est un peu parlé. Je lui ai dit, même si c'était dur, je t'ai aimé. Est-ce que toi, tu m'as aimé? Et là, elle m'a lâché la main et elle a regardé sur le côté. Elle n'a plus du tout voulu...
Elle est morte ensuite.
15 jours après ma venue.
Ça a été terrible. Le jour de l'enterrement de cette dame, à Carmaux, donc, quand on est arrivé à l'église, sur le parvis, avant la messe, on était devant les marches, et puis à 10 mètres, il y avait tout le reste de Carmaux, parce que du monde était venu, qui formait un groupe et qui tournait le dos à Colette. Et personne n'est venu lui dire un mot, personne.
Ça vous affecte beaucoup, ça?
C'est monstrueux. Personne.
Vous parlez de gens qui ont fermé les yeux.
Ouais, hein. Ouais, ça c'est dégueulasse.
On voit là combien la mère de Colette était manipulatrice et voilà, combien cette femme a su vraiment souffler le chaud et le froid et mettre en place...
Il y a des gens qui ne peuvent quand même toujours pas l'admettre, quoi. Qui disent ce que vous dites là, je peux pas le dire, je peux pas l'entendre. Pour moi, votre mère, c'était pas cette personne-là.
Cela fait 3 ans que votre mère est morte. Comment allez-vous aujourd'hui?
Oh, je vais très bien. Franchement, je vais très bien. Ah, mais je dis pas encore que je vais conduire, par exemple, parce que je reste très stressée. Je dis pas. Je sais que je n'aurai plus jamais de grande dépression, par exemple. Je tiens la route,
Vous avez confiance en vous?
Ouais, ouais. Et puis alors, oui, très important, je connais ma valeur, maintenant. Avant, je ne m'appréciais pas, hein, je ne me prenais pas pour quelqu'un de chouette, en fait, je me sous-estimais, voilà. Ouais. Je me sous-estimais et j'avais tellement entendu dire que j'étais nulle et tout ça. Et là, maintenant, je sais ce que je vaux. Peut-être que je deviens moi, en fait, que je... Libre, voilà, je me suis sentie libre, 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 légère, libre. Par contre, j'ai toujours cette petite pointe de me dire qu'est-ce que ça fait aux enfants, parce que quand même, souvent, c'est des générations qui se passent des saloperies comme ça.
Ouais. Il y a la transmission de génération.
Voilà, et ça me fait peur quand même. Je me dis qu'est-ce que ça a fait, voilà.
Églantine et Tristan, les enfants de Colette, ont toujours été au courant du comportement de leur grand-mère qu'ils ont peu côtoyée. Même si Colette a su les élever dans l'amour, je m'interroge sur la part d'héritage que toute cette histoire a pu leur laisser.
Maman, c'est quand même un peu une mère poule et une mère qui est sans cesse en train d'essayer de mettre ses enfants en avant et tout ça, donc c'est tout l'opposé. On sent bien que c'est aussi un impact de son enfance, quoi, mais... J'imagine à quel point ça peut être destructeur, en effet, ça doit être absolument terrible.
Moi, je sais que ce que ça a changé pour moi, c'est que on finit par développer une espèce de pif, d'instinct. Moi, des gens de cette nature-là, je peux les repérer très vite, en fait, des fois. Toi aussi, Lortie, à ta manière, t'as des antennes pas possibles, hein, tu captes des choses.
Je sais pas si j'ai hérité de ce captage.
Ouais, non, t'es plus sur la sensibilité.
On va dire ça comme ça.
Moi, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est j'ai l'impression que j'ai hérité de ça, une espèce d'antenne qui permet de détecter des choses chez les gens qui peuvent être toxiques. Mais après, ça fait aussi que je suis pas toujours dans mes relations à moi, je suis pas toujours très sûr de moi parce que je me demande des fois si je serais pas en train d'être pas franc ou de faire un truc un peu tordu. Et je me pose beaucoup de questions. Voilà, j'hésite beaucoup à agir.
C'est la peur de l'héritage, hein, finalement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, t'as l'impression que ça d'avoir des côtés obscurs et qui fout de la pétoche, quoi.
Pour moi, ça rajoute une couche. C'est un truc en plus qu'on a. Il y a une espèce de conscience que un parent n'est pas toujours bienveillant, par exemple. J'ai tendance à pas trop compter sur ma famille. Elle est là et c'est très bien, mais je vis loin de là. On a toujours du plaisir à se voir quand on se voit. J'ai surtout un entourage. J'ai recréé des familles avec des tas de gens. Et quelque part, c'est une manière de se sécuriser soi-même. D'avoir des gens dont on sait qu'ils sont stables, bienveillants, etc.
Pour elle et pour sa famille, Colette a voulu raconter son histoire.
Allez, on s'appelle. On s'appelle et on se mail.
Dans son livre, L'enfant bonsaï, elle dit sa vérité. Pour que personne, surtout à Carmaux, sa ville d'origine, ne soit plus dupe de la réelle nature de sa mère, mais aussi pour se libérer une fois pour toutes de son emprise, même après sa mort.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Kevin Ousty. Diffusion, Héloïse Berthier. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.